Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia DeSantis, et j'ai créé ce podcast pour aider celles qui, comme moi, ont envie de suivre une autre voie et sont passionnées de voyage. Le voyage m'a aidée à oser, et à travers ce podcast et le témoignage de ces femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage, j'espère que vous aussi, vous trouverez l'inspiration pour suivre vos propres envies. Pour ce nouvel épisode, je me suis rendue à Bali pour interviewer Flora. Flora, c'est le genre de personne qui, quand tu parles d'elle, tu ne sais pas trop comment la décrire. Elle voyage. Mais comment ça, elle voyage? Elle revient quand? Bah, de temps en temps, mais le reste du temps, elle est nomade. Ça parle pas à beaucoup de monde, et elle voit bien, quand elle parle de sa vie, que les gens ne connectent pas. Comment ça, tu voyages toute l'année? Avec Flora, on a parlé de sa vie entre l'étranger et la France, d'arrêter d'attendre que les autres choisissent pour toi, de sens dans ce qu'on fait, de savoir s'écouter, des peurs et de notre mental qui contrôle tout ça, d'amour en voyage et bien sûr, de yoga et de voyage. Bonne écoute!
M'entends? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a plein de bruit derrière? Bonjour Flora.
Bonjour Anastasia. On est parti là?
Oui.
Ah pardon. Ça commence bien.
Pour commencer, j'aimerais te remercier. Parce que si aujourd'hui je suis ici, à Bali, c'est grâce à toi.
Oh, voilà. Ça me fait plaisir.
Parce qu'on n'arrivait pas à faire cette interview à distance, donc
c'est vrai,
il fallait que je vienne.
C'est clair.
L'amour du podcast.
Des trucs pas logiques. Bon, écoute, on n'arrive pas à se trouver un moment là. Tu veux venir à Bali?
C'est plus simple. Prends un avion.
Exactement.
On s'en arrange aussi. Alors, allez, commençons. Donc, Flora, tu as une vie de voyage, de découverte, d'apprentissage.
Ouh, c'est beau.
Peut-être. Mais pour commencer, on va revenir un petit peu sur la jeune Flora. Je reviens toujours sur l'enfance. Tu sais, et donc, première question qui est, tu as grandi près de Bordeaux, comment c'était ton enfance, ta jeunesse?
Ma jeunesse, j'ai commencé le début de mon enfance à Paris, à côté de Paris.
Ah.
Je vivais en Seine-et-Marne.
Oula.
Ouais, et dans ma tête j'étais un peu une petite parisienne, même si j'étais pas, parce que c'est la banlieue parisienne, donc, enfin la banlieue, c'est pas très loin, tu vois, donc t'as quand même une vie de ville.
Ouais,
par rapport à là où je vivais après, à Sauternes, qui est vraiment le patelin de 1000 habitants, où il ne se passe rien. Et j'ai eu ce petit choc des cultures, on va dire, quand je suis arrivée. J'ai fait à ma mère, mais il est où le supermarché là?
Le Franprix.
Il est où? C'est ça. C'est-à-dire que là, il faut prendre un bus. C'est normal.
Qui passe, il fait 2 heures.
C'est clair. Et sinon, autour de nous, il n'y a que les vignes. Elle est où la boulangerie? Voilà. Donc c'était un peu, c'était un petit peu choquant au départ. Et je me rappelle, je m'étais promis à moi-même, dès que je peux, dès que j'ai fini le lycée, je repars à Paris. Je vais partir à Paris.
Mais t'es arrivée à quel âge alors à Sauternes?
Je suis arrivée à 11 ans. Et en fait, quand t'es arrivée, voilà, le lycée, j'ai fait, mais en fait, la vie parisienne, non, c'est pas possible.
Ouais.
Je veux surtout pas vivre à Paris. Et voilà, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien la campagne quand même.
Au final.
Ouais, bien la campagne.
Tes parents, ils t'emmenaient un peu en voyage, parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup bougé, en fait, tes parents.
Oui, oui, en fait, déjà, ma marraine habite en Australie. Mes oncles et tantes habitaient en Afrique. J'ai une tante qui habite au Maroc.
D'accord.
Donc, même à l'école, j'ai toujours fait des comment appeler ça?
Des exposés.
Ouais, merci. Je fais les exposés sur les pays où habitaient mes oncles et tantes, en fait.
Génial.
Donc, j'ai vraiment toujours eu ça. Et puis, mes parents sont souvent partis en voyage, à droite, à gauche. Voilà, ma mère accompagnait toujours les lycéens dans les voyages scolaires. Et mon père partait toujours pour le travail. Donc,
ouais.
Pour moi, c'était logique, quoi. Le voyage, c'était un truc que tout le monde faisait, qu'on faisait tout le temps à la maison.
T'as fait des études dans la communication. T'as notamment vécu en Espagne pour un master en relations publiques, si c'est bien ça.
Oui, tout à fait.
Et après ça, t'es partie 6 mois en voyage.
En fait, j'ai fait mes études dans la com, un truc assez classique, une licence, un master. Mais j'ai toujours eu ce truc où je me disais, il y a autre chose que la vie en France, il y a autre chose que... Déjà, j'ai fait la moitié de mon master en Espagne. J'avais vraiment envie de bouger, même l'autre moitié, en fait, en Belgique. Et j'avais vraiment envie de bouger, quoi. J'ai fait mon stage à Singapour aussi, quand j'étais à l'école. Et mes parents, en fait, à ce moment-là, habitaient en Malaisie.
Comment est-ce que tes parents se sont retrouvés... Pardon, je fais une parenthèse.
Non, vas-y.
Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à habiter en Malaisie?
Parce qu'en fait, mon père travaillait pour une société de gaz, de pétrole, et donc pour ça, il voyageait beaucoup. Et il avait souvent des contrats, on lui proposait des contrats, notamment une fois, il avait un contrat de 2 ans à Singapour, mais il revenait souvent en France et il n'habitait pas là-bas. Et là, la deuxième fois, c'était un contrat de 3 ans en Malaisie qui s'est avéré, donc ils ont vraiment déménagé pour le coup, qui s'est avéré être un contrat de 7 ans. En fait.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des pas dans le voyage, tu vois. À partir en Asie, la Malaisie m'attirait pas du tout.
Mm-hmm.
Et je me rappelle, je suis partie avec eux à Singapour. Un petit voyage comme ça, un petit week-end depuis la Malaisie. Et j'ai adoré Singapour et je me disais, mais il faut que je revienne à Singapour pour quelque chose, quoi. Pour un stage, pour les études. Mon père me poussait aussi pas mal, mais... Mais parce que c'était une super opportunité, quoi. Enfin, c'était génial, quoi. Singapour, c'était vraiment top. Donc, c'est pour ça que je suis venue faire mon stage à Singapour. J'ai aimé, mais je pense que j'y vivrai pas plus que 3 mois, tu vois. Voilà. La Malaisie, c'était plus traditionnel, alors que dans mon esprit de jeunesse, Singapour, tu vois, c'était plus beaucoup d'expats. Tu vivais dans des condos avec piscine. Enfin, tu vois, au départ, quand j'avais mon esprit assez vierge en tant que voyageuse, je trouvais ça super cool. Et tu pouvais sortir partout. J'ai jamais si peu dormi qu'à Singapour parce que je faisais la fête tout le temps.
Ah ouais.
Donc, tu vois, quand t'as 20 ans, c'est trop bien. Quoi. Ouais.
C'était trop bien. Le côté grande ville, en mode businesswoman.
Exactement. Surtout dans la com, tu vois. Ouais. J'avais un petit peu ce truc-là, cette petite vibe-là, me dire, ouais, c'est trop bien. On est tous en tant qu'expat, on est tous jeunes, tu vois, c'est trop cool, la ville et tout.
C'est ça, l'école, j'ai réussi, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais.
Et en fait, bon, après cette année que j'étais plus en mode, j'aime les arbres et la campagne.
Finalement.
Voilà, c'est ça.
J'ai changé. Et du coup, c'est 6 mois, tu les as fait où?
Et alors, c'est 6 mois, je suis partie en Malaisie. Et j'ai fait la Thaïlande aussi parce que mon cousin était en Thaïlande, donc je lui ai dit bah je te rejoins.
Allez.
Et puis après on est parti en Australie 2 mois, lui faisait un working holiday visa là-bas, un PVT, donc moi je l'ai rejoint parce que ma marraine, donc qui habite en Australie, était là-bas, donc je me suis dit bah, je vais la voir parce que je l'ai pas vue depuis 6 ans 7 ans, donc je suis allée la voir, exactement. Et après je suis allée aux Philippines et à Bali.
Ça te faisait pas peur de voyager seule?
Pas du tout. Parce que pour moi, je voyageais pas seule parce que je savais que j'allais retrouver mon cousin, que j'allais retrouver ma marraine, retrouver mes parents à un moment donné. Donc je me sentais... En fait, déjà quand j'étais petite, je prenais l'avion pour aller de Paris à Marseille. Je prenais l'avion tout seul avec mes frères. Tu sais, avec les enfants qui ont ces pancartes là.
Ouais.
Donc pour moi, c'était... Voyager, ça m'a jamais fait peur. En fait, je me suis toujours... Je trouve ça hyper naturel.
Ouais.
Et je trouve ça même hyper excitant, quoi.
C'est marrant que...
Donc, non, je crois que je me suis jamais posé la question, mais t'es toute seule. Par contre, faire un pays toute seule, là, je pense que je n'aurais pas peur, mais j'aimerais moins, quoi. Parce que je préfère partager, en fait, dans le voyage. Donc,
T'as jamais fait de voyage solo? Enfin, solo, tu rencontres toujours des gens, mais...
J'ai jamais réussi, non. Parce qu'à chaque fois, je suis partie en solo.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois, il s'avérait que je rencontre mon cousin, je rencontre ma copine Laura, je rencontre ceci, cela. Et du coup, je me suis jamais retrouvée seule à voyager, finalement.
Ouais. Après ce voyage de 6 mois, t'es finalement rentrée en France. Tu m'avais dit au téléphone pour rentrer dans les clous.
Ouais.
Tu emménages à Paris et donc tu vas travailler en tant que chef de projet digital.
Ouais.
Pendant 1 an et demi à peu près, c'est ça ?
C'est ça.
Dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là?
Quand je suis rentrée?
Quand tu rentres de voyage et que tu te dis, bon bah, là je prends un boulot.
Bah, J'étais pas très convaincue quand même, faut vous avouer. Mais je voyais tous mes potes de la même promo qui bossaient, qui commençaient vraiment à développer leur activité, qui commençaient vraiment à avoir un boulot bien et tout ça. Et moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais, et en plus, ce que je faisais, ça me plaisait. Donc, je me disais, bon, bah, il est temps, maintenant, faut arrêter de s'amuser. Il est temps de rentrer dans la vie adulte, voilà, de vraiment faire les choses pour de vrai. J'avais vraiment ce truc de, c'est pour de vrai, la vraie vie, pour le coup, tu vois. Et voilà, je me suis dit, bon, on va tester et puis on verra, parce que je ne suis pas trop sûre de la vie parisienne. Mais je me suis dit, on va tester et verra ce que ça donne. Bon, c'était pas forcément ce qu'il me fallait.
C'était un échec.
un échec.
Et donc, tu finis par craquer. On peut dire ça comme ça, je sais pas si t'as craqué, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
En fait, la rupture, c'est parce que, voilà, je me suis dit, on va tester ce que ça donne, on va devenir une vraie adulte, on va faire quelque chose de sa vie, on va gagner de l'argent, vivre à Paris et tout ça, mais je sentais que j'étais quand même pas à ma place. Quand je suis revenue, j'avais cette illusion que mes potes, ce qui s'est passé au départ, mes potes, ils voulaient tout le temps me voir, ils étaient super contents parce que je les avais manqués. Mais après, chacun a sa vie, surtout à Paris, quoi. T'es vachement dans ton quotidien, tu peux pas compter sur les autres, tu peux compter que sur toi, tu vois, même sur ta famille, tu peux pas... Enfin, chacun a sa vie, tu peux pas dépendre des autres. Et c'est là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, mais attends, je reviens pour les autres un peu, pour passer du temps avec ma famille, pour passer du temps avec mes amis, pour avoir une vie adulte, mais au final, je m'en oublie un petit peu. Et... là, ça a commencé à faire son chemin. Et après, dans mon boulot, je faisais que des CDD. Mon boulot, il me disait, mais t'es génial, c'est indispensable. Je gagnais tout le temps des super opérations marketing, de communication et tout. J'avais vraiment des très bons résultats. Mais à chaque fois, on me ressortait un CDD, quoi. Et je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule, en fait. Ouais. Vraiment.
Toi, tu voulais un CDI?
Moi, je voulais un CDI parce qu'à Paris, on te dit que le CDI, en France, enfin, je sais plus, mais... On te dit que le CDI, c'est le Graal, que c'est le truc à avoir. Et en fait, j'avais l'impression de mourir à petit feu en même temps. Et j'avais l'impression de donner mon temps, de donner toute mon âme, de donner mon cœur pour une entreprise, en fait, qui m'utilisait, mais comme un pion, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il me faisait croire que j'étais géniale, mais juste parce que j'apportais des bons résultats, mais en tant que personne, mon boss ne connaissait même pas mon prénom. Et ça, en fait, il y a un truc où je me suis dit, mais je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas cautionner ça. Je vaux plus que ça, quoi. On est des êtres humains et j'ai l'impression d'être une pièce qu'on utilise quand on veut. Et le fait aussi qu'ils me la fassent à l'envers sur mes CDD, parce que tu ne peux pas avoir plein de CDD à la fois, mais ils me la faisaient à l'envers, ils me faisaient miroiter des choses. Enfin, la vie dans la com, quoi, tu vois.
Ouais.
Ou je ne sais pas si c'est dans tous les boulots comme ça, mais...
C'est dans beaucoup, ouais.
Du coup, j'ai fait, tu sais quoi, arrête d'attendre que les autres choisissent ta vie et fassent ta vie, quoi. C'est à toi de prendre les rênes de ta propre vie et d'en décider pleinement ce que tu veux en faire, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, si j'écoute vraiment cette voix, je me casse. C'est fini. J'arrête.
Mais alors, pourquoi est-ce que tu t'es pas dit je change de boîte ou alors je change de ville, peut-être?
Parce que je sentais que c'était déplacer le problème quelque part. Je sentais que mon boulot me plaisait, mais au fond, tu sais, t'as toujours ce petit truc à l'intérieur de toi, je sais pas comment expliquer, mais ce petit truc à l'intérieur de toi, tu te dis, mais c'est cool, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est pas 100% heureuse, quoi. Je saute pas au plafond quand j'en parle, quand même. Et je trouvais que c'était un boulot cool, et je disais que c'était cool parce que je sentais que les gens me renvoyaient cette image. Ils me disaient, ouais, tu voyages grâce à ton boulot, tu fais des soirées, ouais, tu connais plein de gens hyper connus et tout, ouais, c'est trop bien. Ouais, j'étais comme ça, ah ouais, c'est clair, ouais, c'est bien, ouais, j'ai de la chance. Et après, en fait, je me disais, mais ça sert à quoi, en fait, ce que je fais? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et est-ce que j'ai pas envie de faire un truc qui est un peu plus juste avec qui je suis, avec ce que j'ai envie d'apporter, et ma vision du monde, quoi? Parce que, d'un côté, la com, c'est aussi un petit peu mentir, c'est aussi ajuster la vérité, c'est aussi un petit peu vendre, enfin, te mettre au service d'une entreprise pour vendre pour elle. J'aime vraiment pas cette idée de devoir voilà, tout donner de ma personne, de moi-même pour enrichir une entreprise qui avait déjà des milliers, quoi. je me suis dit, mais voilà, il y a un truc à faire, quoi. Et ça sera partout pareil.
Je me reconnais tellement dans ce que tu dis.
Ouais.
Ah ouais, c'est ouf. C'est la même chose pour moi, quoi. Mais le truc de... Mais pourquoi tu changes pas d'entreprise ou de ville? Moi, on me l'a dit quand je disais ça à part. Mais en même temps, je trouve que c'est vachement difficile de savoir, parce que tu parles de... Tu cherches quelque chose pour aller plus en accord avec tes valeurs, avec qui tu es. Mais je trouve que c'est assez difficile de savoir quelles sont tes valeurs, tout simplement, et puis qui tu es, parce que t'es en train de te construire, même si on a 25, 26, 27, 28 ans. Tu vois, je trouve que c'est...
Mais exactement, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, même s'ils sont pas jeunes, qui restent dans leur boulot, parce que on nous a jamais appris à vivre sans savoir ce qu'on veut faire. Tu vois, dès que t'arrives à l'école, on te dit, il faut que tu fasses ça pour ça, il faut que tu fasses ça pour ça, il faut que tu choisisses l'option qui va te plaire, il faut que tu choisisses, il faut que tu penses à l'avenir, il faut que tu penses à ta fac, alors que tu sais absolument pas ce que tu veux faire dans la vie, tu vois. Tu connais rien de la vie professionnelle, tu comprends rien, t'as aucune compréhension de ça. Et on nous a jamais appris à te dire, t'inquiète, ça va venir, ça, tu vas comprendre. En fait, on nous a jamais appris à partir de nos passions pour en faire quelque chose au monde, tu vois, pour en devenir, pour que ça devienne une vie professionnelle ou que ça devienne, tu vois, utiliser nos passions pour les montrer au monde. On nous a toujours dit, t'as des passions, c'est très bien, garde tes passions de côté, par contre tu vas commencer à penser à comment tu pourrais gagner de l'argent. Et en fait, on n'associe jamais ça ensemble. Et c'est pour ça que, enfin, moi je trouve que les gens sont perdus quand ils se rendent compte qu'ils font un boulot qui est à des milliers de kilomètres de ce qu'ils sont, parce qu'en fait ils savent plus quoi faire, quoi. Tu sais plus où t'en es, quoi. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, tu vas trouver la réponse. À la base, j'ai quitté Paris en me disant, tu vas faire une expérience à l'étranger dans la même branche, dans la com.
Ah.
Mais je me suis dit, ça changera tout. C'était la première petite voix qui m'a aidée à tout à partir, à tout quitter. Et mes parents aussi qui habitaient à l'étranger. Et je me suis dit, ça marche très très bien, tu vas prendre la même entreprise et tu vas faire la même chose à Kuala Lumpur, à Singapour, en Asie, et tu seras expat, et ça sera une petite vie d'expat pendant 3-4 ans, et voilà. Mais et quand je suis arrivée à Kuala Lumpur, au bout d'une semaine, j'ai fait, ok, je sais que ça va pas être ça, quoi. J'ai fait, mais c'est pas grave, on y va, on verra, je vais pas perdre ma vie, quoi, tu vois, rien perdre, je vais que gagner.
Non, mais c'est vrai, et c'est pas forcément évident de tout quitter. Quand on dit tout quitter, ça fait peur, tu vois. Il y a plein de choses qui vont derrière. Il y a tes amis, ta famille, il y a tout. Alors là, t'as quand même gardé un petit truc, le boulot.
Ouais.
Mais ça t'a quand même permis de faire ce pas.
Exactement.
De partir.
Exactement. C'est vraiment ça qui m'a donné le courage. Mais au fond, je savais que c'était une grosse illusion. Hein. Je savais qu'il y avait des grandes chances que je change de vie et tout ça, mais c'est ce qui m'a permis de prendre le courage, quoi, de me dire, mais c'est bon. En fait, j'avais vraiment pas trop peur de quitter mes amis pendant 3-4 ans, parce que je savais que c'est pas eux qui allaient faire ma vie, tu vois. Ma famille aussi, ils allaient me manquer, c'est sûr, mais maintenant, en fait, on a WhatsApp, on a Skype, et en fait, je me suis rendu compte sur les 6 mois d'avant, tu vois, les premiers 6 mois où je suis partie la première fois, je me suis rendu compte que même je crée des amitiés plus fortes avec mes amis par WhatsApp, parce que on est derrière un téléphone et des fois on a moins peur de partager des choses sur les messages vocaux et choses comme ça. Alors ça fait pas ça avec tout, mais certaines de mes amitiés se sont renforcées quand je suis partie.
D'accord.
Et ce qui est assez étonnant, parce que on a peur de partir, parce qu'on a peur de s'éloigner des gens, mais quand tu t'éloignes des gens, c'est que il y a certaines personnes, je me suis éloignée. Mais c'est qu'elles sont pas en phase, tu vois, il faut apprendre aussi à lâcher. On a tendance à vouloir garder des vieilles relations, à vouloir garder des amitiés qui ne fonctionnent plus parce que ça fait longtemps, parce qu'on y est attaché. Mais en fait, quand tu commences à voyager, tu commences aussi à te rendre compte qu'il faut se délaisser du superflu et savoir être dans l'essentiel, tu vois. C'est aussi comme ça qu'on fait notre sac. Et donc vraiment, c'était cette idée de... J'avais pas peur de me dire que j'allais être loin de mes amis, de ma famille, parce que... Je savais que si j'avais besoin, je pouvais revenir à tout moment. C'est-à-dire que je partais dans mon idée 3-4 ans, mais si j'avais besoin de revenir dans 6 mois, bah, on peut prendre un billet d'avion, oui. Ça coûte pas très cher, si tu t'arranges à l'avance, enfin, il y a des solutions, quoi. C'est pas, pendant 3-4 ans, je suis bannie de la France et c'est tout, quoi. Donc, c'est aussi là où j'avais pas cette peur, quoi. Je me disais, bon, ben, ça se manage, quoi. Ça se gère.
Tu me dis, là, j'avais prévu partir 3-4 ans, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, alors?
Ben, en fait, pour le coup, c'est ce qui est en train de se passer, parce que ça fait 3 ans. Donc, tu vois, là, ça fait 3 ans que je suis partie. Ouais. Mais c'est pas passé comme je le pensais.
Oui. Tu vas partir en tant qu'expat?
Non.
En Malaisie?
Exactement. Ça fait 3 ans que je travaille pas de façon régulière aussi, quoi.
Oui.
Donc je pensais que j'allais partir 3-4 ans parce que j'allais trouver un travail à l'étranger et tout ça, tu vois, vraiment cet esprit assez carré, assez bon, c'est comme ça que ça doit être. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Ça fait 3 ans que je travaille pas régulièrement. Et aussi, ça fait 3 ans que je rentre en France un peu, je repars, je rentre en France. Donc, en fait, c'est un peu une vie qui devient nomade, c'est-à-dire je vis un peu à l'étranger, mais en même temps, je rentre souvent pour me ressourcer dans mon pays, pour voir ma famille, mes amis. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours été... Ça m'a toujours fait rêver ces gens qui vivent 6 mois à l'étranger. 6 mois en France.
Ouais, moi aussi. Ouais.
Et finalement, c'est ce que je suis en train de faire. Bah, quoi. Oui. C'est la vie que je suis en train de créer. Mais ça s'est fait petit à petit, naturellement. Et je n'ai pas essayé de me dire... Pendant le voyage, je ne me suis pas dit... Non, mais tu as dit que tu partais 4 ans. Tu dois rester 4 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'écoutais. Et ça, c'est hyper important en voyage. Quand j'entendais qu'il fallait que je rentre, pour quelque raison qu'il soit, même si j'étais partie il y a 3 mois ou 4 mois et que ça ne me paraissait vraiment pas long, ben... S'il faut rentrer, il faut rentrer, quoi. Tu vois, tu le sens, tu en as besoin. Alors, des fois, tu as des coups de mou, mais tu arrives à trouver une façon de repartir quand tu es en voyage. Mais quand tu sens que vraiment là, il faut rentrer, la France t'appelle, rentre, quoi, tu vois. Et finalement, c'est comme ça que ça fait 3 ans et demi que je voyage. C'est marrant, mais partir de France m'a fait me rendre compte que j'aimais bien y rester, mais que j'avais besoin aussi de voir autre chose, parce que l'extrême n'était pas bon pour moi. Rester tout le temps en France, je trouve que je travaille pas assez sur moi, où il y a plein de choses où je m'éteins, en fait, si j'y reste trop. Ce qui est dommage, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui nous limitent en France. Et c'est à l'étranger où je trouve cet équilibre, où ça me nourrit, ça me donne envie de... Ça me donne des idées, c'est très créatif. Voilà, il y a beaucoup moins de limites à l'étranger. Donc c'est là où je vais puiser toute ma confiance en moi, toutes mes idées créatives, et c'est là où je vais les implanter après en France, ou en tout cas je viens de me ressourcer. Et donc c'est jouer entre ces deux, c'est vraiment jouer entre ces deux énergies, quoi.
À un moment donné, dans ce voyage que tu as fait, tu as rejoint Laura, ton ex-collègue, en Thaïlande, et vous deviez voyager ensemble pendant 1 mois, et finalement ça fait... Vous avez voyagé pendant 2 ans.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors là, ça c'est la magie du voyage, j'appelle ça. On n'avait absolument rien prévu. Laura était partie en Thaïlande pour faire un stage de boxe. Et moi, en fait, on arrivait à un moment où moi, je me disais, tiens, je vais aller en Thaïlande justement pour voir ce qui se passe, pour voir si ça peut être sympa. Et Laura venait juste de finir son stage de boxe. Et elle m'a dit, t'as qu'à venir me rendre visite, ça pourrait être sympa, c'est rigolo de se voir entre ex-collègues là-bas.
Vous n'étiez pas amis, vous étiez juste collègues.
On commençait à avoir une amitié, mais elle n'était pas encore hyper... On était un peu copines, mais c'était pas encore hyper soudées, quoi.
D'accord.
Et c'est vraiment le voyage qui nous a soudées. Et donc je lui dis, écoute, moi je vais voyager pendant 1 mois ou 2, j'ai tel itinéraire. Et regarde mon itinéraire, elle me dit, franchement, c'est pas mal ton itinéraire. Est-ce que ça te dérange pas que je vienne avec toi au moins sur la première semaine? Parce que je pense que je vais faire exactement le même itinéraire, en tout cas, ça me paraît bien. Et je pense qu'elle avait un petit peu la flemme de prévoir son voyage. Donc je lui dis, écoute, pas de problème, ça me paraissait bien une semaine. Et finalement, une semaine est passée, mais c'était un jour. Et on a fait comme ça, on a continué, on a poussé plus loin. Et au final, on a créé vraiment une amitié hyper forte. On a vécu des choses incroyables. Et à chaque fois, on avait les mêmes envies, on avait envie d'aller aux mêmes endroits. Et on voyait pas trop l'intérêt de de se séparer finalement. Bah, oui. Ça s'est fait très très naturellement. Et on est venus vraiment, voilà, copines de voyage, compagnons de voyage, comme ça au fil de l'eau. Et d'ailleurs, ça a été très dur de se séparer, quoi, finalement, après 2 ans. En fait, pendant ces 2 ans aussi, on s'est créé l'une à l'autre un programme de développement personnel où on avait un cahier qui est gros comme un livre, où on écrivait tous nos schémas limitatifs, tout ce qui ne nous aidait pas, tous nos habitudes, tu vois, on creusait vraiment la personnalité de chacune et on a vraiment déconstruit notre personnalité, déconstruit notre structure pour comprendre qui on était vraiment à l'intérieur. Voilà, et c'est ça, et c'est pour ça qu'aussi on est resté 2 ans ensemble, parce que on s'est aidé à comprendre qui elle était et qui j'étais avec ce jeu de miroir, quoi.
C'est génial.
Ouais, mais c'était dur.
Ouais.
Et souvent, la personne qui voyage avec toi ou la personne qui est avec toi, c'est un miroir de qui t'es. Donc, c'était intéressant de voir parfois des choses qui lui correspondaient. Je me disais, ah, moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, tu peux être sûre que 3 jours plus tard, tu disais, ah oui, mais alors finalement, c'est vrai que je me sens pas forcément à l'aise dans cette situation qui est en lien avec ça. Voilà, donc c'était assez intéressant de voir vraiment le parallèle entre nous, quoi.
Comment est-ce que tu fais financièrement pour être tout le temps en voyage ?
Alors, un truc que j'ai découvert en voyage, c'est que le voyage ne coûte pas si cher que ça quand on est vraiment en mode voyage. C'est-à-dire que je suis partie avec des économies, j'avais fait des économies pendant longtemps quand même. Donc je suis partie avec une base de 11 000 euros quand même, d'économies qui est quand même assez grand.
Ouais.
Et tout de suite, on s'est dit, on va essayer de dépenser quand même le moins possible. Pour pas tous griller. Je pense qu'inconsciemment, on savait qu'on n'allait pas partir de juste 3 mois ou 1 an, ou je sais pas quoi. Et on a fait beaucoup de volontariat.
D'accord.
Donc ça nous a quand même aidé à financer notre voyage énormément. On a fait beaucoup de... Enfin, on mange tout le temps local. C'est-à-dire que là, à présent, 3 ans plus tard, maintenant qu'on voyage et qu'on voyage différemment, on peut se faire un peu plus plaisir. Mais je me rappelle la première année... On s'achetait rien, on dépensait juste en nourriture, on buvait pas d'alcool. D'ailleurs, on n'en boit quasiment jamais en voyage. En fait, je bois de l'alcool qu'en France. Et ça, ouais, on dépense beaucoup moins quand tu bois pas d'alcool. Et on prenait les transports lents, c'est-à-dire on prenait le moins souvent l'avion, on faisait beaucoup de trains, de bus, on s'y prenait un peu plus à l'avance. On prenait des hôtels qui étaient vraiment pas chers. On n'avait jamais... En fait, on n'avait pas une vie de luxe. On avait plutôt une vie assez rustique, d'ailleurs. Une vie assez rustique. Donc, on est vraiment parti. On s'est dit, on se détache de l'immatériel, quoi. On essaye vraiment de vivre au plus simple et le plus local possible. Et quand tu vis le plus local possible, et qu'en plus, tu fais des fois des volontariats, ben, tu dépenses pas beaucoup, en fait. Parce que volontariat, t'es logé, t'es nourri, tu travailles un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, ça t'arrive quand même une grosse partie des dépenses.
Oui.
Après, il y a le transport, mais comme encore une fois, on voyageait assez lentement, ben, on prenait toujours des transports qui étaient pas chers, comme le bus. Alors, on a passé des nuits dans les transports, on a fait des 12 heures de bus, des 24 heures de train, mais c'était une expérience incroyable.
Et puis si tu restes 2-3 mois au même endroit, bah, le coût transport est moindre.
Exactement. En fait, c'est ça aussi qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Finalement, on ne visitait pas beaucoup. D'ailleurs, on s'est rendu compte, on a passé 10 jours à Chiang Mai en Thaïlande. Et après 10 jours, on s'est dit, mais on n'a fait aucune activité touristique quand même. On ne faisait pas beaucoup d'activités touristiques, donc on ne dépensait pas là-dedans. Pour nous, on était vraiment en mode nomade, qui est vraiment différent, ou en mode voyage, qui est vraiment différent du tourisme. On ne faisait pas de tourisme, on en faisait vraiment très peu, et on choisissait vraiment les activités qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait investir notre argent. Et on restait, comme tu dis, 3 mois, 4 mois, 6 mois. On est resté 5 mois sur une île où il n'y avait rien. Il y avait juste des restaurants et la mer. Finalement, on avait un mode de vie tellement simple qu'on dépensait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup de besoins, à part boire, manger, se baigner, mais la mer c'est gratuit, donc on en profitait quand même vachement. Et c'est mes plus beaux souvenirs, en fait. C'est là où j'ai dépensé le moins. Parce que tu reviens à l'essentiel, tu reviens vraiment à... à la vie simple, quoi.
Je suis d'accord avec toi. est-ce que ça t'arrive, ou ça t'est arrivé, d'avoir des gens en face de toi qui ne comprennent pas ta vie, qui ne comprennent pas que tu peux avoir une vie comme ça, faite de voyages, et qui, quelque part, t'en veulent, ou te jalousent, ou essayent de te remettre dans une case?
Alors, oui, c'est arrivé souvent, mais ça n'arrive jamais en voyage. Ça nous est arrivé de rencontrer des gens qui voyagent pour une courte durée et qui nous regardent un petit peu comme des ovnis, en mode, mais c'est-à-dire que tu voyages, mais...
Et combien de temps
c'est, oui, voilà. mais vraiment, c'est, ta vie, c'est le voyage, d'accord. Mais sinon... Voilà, tu sens que chez eux, ça, les connexions se font pas, quoi. Il y a un truc dans le cerveau qui fait un blanc, ils sont là...
Je ne peux pas comprendre.
Mais dans ma famille aussi, j'ai eu des réflexions de certains de mes cousins. Et j'ai senti de la jalousie, parce que les gens se projettent. Et aussi, parfois, tu renvoies sans le vouloir une image aux gens de « Et toi, ta vie, elle est comment ?» Mais sans le vouloir, parce que qu'est-ce qui, tu vois, ils associent ça, quoi. Ils se disent, elle est partie, elle a tout quitté, elle veut changer de vie, elle sait pas ce qu'elle fait, c'est pas grave, elle y va quand même. Et ils se disent, putain, et moi, qu'est-ce que je fais, quoi? Et moi, est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que moi, je voyage pas beaucoup? Et du coup, tu renvoies ces questionnements aux autres, mais sans le vouloir. C'est eux qui se posent ces questions-là, du coup, par projection. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu des moments un petit peu agressifs comme ça. Mes parents aussi, qui, quand je suis revenue la première fois en France, ils m'ont dit « Bon, voilà, allez, maintenant c'est bien, tu t'es bien amusée, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et moi, toujours, tu vois, bien dans mes bottes, « Je ne sais pas. Je vais repartir en voyage. Je vous donnerai la réponse dans quelques années.
» Je ne sais pas quand.
Mais ça, c'est le départ, au début, les premiers mois. Ouais. Et après, ou la première année. Parce que bon, ça fait quand même quelques années, je pense que je ne m'en rappelle pas. Mais la première année, c'est un peu comme ça. Et après, ils se rendent compte qu'en fait, tu évolues. Tu apprends tellement sur toi. Enfin, moi, je suis beaucoup moins stressée, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Je suis beaucoup plus sympa qu'avant.
Je suis une connasse avant.
Je suis une sacrée connasse. Et je suis heureuse, quoi. Et quand tu commences à voir, enfin quand les gens commencent à te voir heureux, ta famille, les gens qui t'aiment, qui commencent à voir ça chez toi, ben ils lâchent, quoi. C'est pas leur vie. Ils se disent, bon ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Elle est bien, quoi. Ils s'inquiètent pour toi. Tout le monde s'inquiète toujours, je le sens. Mes parents, des fois, ils me posent des questions, mais au niveau de ta retraite, mais en termes de ci et de ça, tu vois, c'est des questions qui sont très pragmatiques, mais je leur dis, mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je gère. Tu vois, ça veut pas dire que je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que je voyage, que je suis pas consciente de ce que je fais, que je pense pas à l'avenir, que... Voilà, ça change rien. Et à partir du moment, ils ont commencé à lâcher. Et c'est là, mine de rien aussi, que moi j'ai commencé à prendre des décisions pour ma vie et à commencer à vraiment changer de vie et à rentrer dans ma deuxième partie de vie, qui est là où j'ai commencé à faire des formations et à vraiment savoir ce qui me plaisait. Où j'ai senti que j'avais vraiment le terrain libre, j'avais vraiment le champ libre, où on me donnait la confiance, on me disait, bon ben, tu sais quoi, on sait que tu vas t'en sortir, on sait que ça t'aide à passer une étape, c'est une transition dont t'as besoin, donc vas-y quoi, fais ton expérience. Et choisis la vie que tu veux, parce que de toute façon c'est la tienne, et ça n'appartient qu'à toi quoi. Même si moi je ferais pas ça, ben, ça veut pas dire que je trouve que c'est pas bien. De toute façon, si je trouve que c'est pas bien, c'est ma vision, quoi. Et ben, à ce moment-là, j'ai fait « Oh ! Ah ouais ! Vas-y, je fais ce que je veux maintenant !»
Et ça, tu disais que c'est au bout d'un an de voyage, à peu près, c'est ça ?
Au bout d'un... Ouais, un an et demi, à peu près. Après un an et demi, là, ça fait un an et demi que je pense que je suis un peu dedans, mais ça, c'était à peu près ça, ouais.
Et ces questionnements que les autres avaient en te disant « Et pour ta retraite, par exemple, machin, est-ce que toi-même, tu te disais... Ah ouais, merde. »
Ben, je me disais, ouais, comment ça va se passer au niveau de ma retraite? Et après, je me disais, mais comment veux-tu prévoir ta vie sur quelque chose qui n'est pas stable? C'est-à-dire que le système des retraites, aujourd'hui, déjà, c'est complètement la crise. Je me dis, mais dans 40 ans, comment veux-tu faire un plan de vie sur un élément dans 40 ans? C'est-à-dire que là, maintenant, je sais que si je veux penser à ma retraite et à mes vieux jours, je vais me débrouiller toute seule, tu vois. Je vais faire ça autrement. Je vais pas me dire, je compte sur le gouvernement. Parce que ça se trouve, je serai même pas en France. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je vais pas prévoir ma vie pour dans 40 ans quand je sais même pas ce que je fais dans 2 ans, quoi. Donc, je sais que c'est quelque chose que je dois prendre en compte. Je sais que c'est quelque chose... J'aurais peut-être pas les mêmes prédispositions que les autres, que ceux qui ont travaillé toute leur vie dans toujours la même entreprise. Mais au moins, j'aurais profité de ma vie, quoi. Et ça... personne ne me l'enlèvera, quoi. Même si j'ai une petite retraite où je dois me... Bon, j'en sais rien, tu vois, on sait pas comment ça se passe de toute façon. Même si la fin de mes jours sera un petit peu plus difficile ou si j'aurai un peu moins d'argent, je m'en fous parce que je sais que je vivrai sans regret, quoi. Et ça, pour moi, c'était le plus important.
Tu as rencontré l'amour en voyage. Comment est-ce que l'amour a réussi à impacter ton voyage, ta vie? C'est une question difficile.
Ah, c'est une question très difficile parce que, en fait, c'était dur de me dire de pas avoir de barrière. C'est-à-dire, je suis arrivée en voyage, j'étais célibataire et c'était pas du tout dans mon idée de rencontrer quelqu'un parce que on a tendance à penser, ta vie est tellement instable, ouais. Comment veux-tu créer quelque chose? Déjà que à Paris, forcément, c'était pas forcément facile de créer quelque chose de stable. Ce qui est magnifique en voyage, c'est que tu te laisses porter par le flot. Et les choses ne viennent pas du tout de la même façon que quand t'as une vie établie, où t'as ton travail, et tu sais ce que tu fais un peu tous les jours et tout ça. Quand les choses sont... Quand tu sais pas ce qui va se passer dans 2 jours, dans 1 semaine, en fait, tu vis tout à fond. Donc tu t'ouvres. T'ouvres ton cœur. T'y vas. Tu cherches pas à faire des stratégies de savoir est-ce que je lui plais,
ouais.
Est-ce que je devrais y aller, est-ce que tu penses que... En fait, en voyage, tu pars dans un état d'esprit de toute façon, je peux être avec moi, je peux être moi-même 100%, parce que cette personne, je la reverrai peut-être jamais de ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais aller m'embêter à essayer de faire des faux semblants, à essayer d'être comme si faire des calculs comme si je devais être celle-là ou une autre. Je me suis dit, mais sois toi-même, quoi. Et c'était ça, mon playground, mon terrain de jeu, un peu en voyage. C'était me dire, vas-y, on va être 100% soi-même et on va voir ce que ça fait. On va voir ce que c'est d'être 100% soi-même. Et c'est comme ça que l'amour est venu frapper à ma porte, en gros, parce qu'elle a fait, hey, mais toi, tu sais qui tu es, quoi, tu vois, t'es vrai, quoi, tu te caches pas, tu mets pas de barrière, et à partir du moment où tu mets pas de barrière, où tu laisses les choses se faire, et tu prends les choses avec beaucoup plus de détachement, c'est-à-dire, on passe des bons moments, peut-être que ça va s'arrêter demain, peut-être que, on se rend compte que ça continue, et finalement, tu crées une relation forte tout de suite, beaucoup plus, beaucoup plus que, il y a des relations qui peuvent prendre 3 ans à émerger, à vraiment se construire. En voyage, mais les relations amicales, c'est pareil. Ça va direct parce qu'on n'a pas de temps à perdre, quoi. Tout peut s'arrêter. Et avec cette... On devrait toujours avoir, d'ailleurs, cet esprit que tout peut s'arrêter à tout moment. Parce que c'est comme ça que tu donnes 100% de toi-même, quoi. Et ouais, et du coup, finalement, la vie a fait qu'on s'est à chaque fois retrouvés, qu'à chaque fois, on a eu les mêmes envies. Pareil, quoi. Quand ça doit se faire... Quand ça doit se faire, c'est fluide, quoi. Voilà, quand ça doit arriver, quand c'est écrit, ça se fait tout seul, quoi.
C'est fluide, ouais.
Exactement, c'est fluide. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est venu et je pensais pas du tout que j'allais rencontrer l'amour et finalement, ça se fait naturellement et c'est hyper enrichissant aussi de mettre le voyage entre nous comme ça et de surfer sur cette vague-là, quoi. Je trouve que c'est comme quand tu fais t'es à la fac, que t'as la théorie, que tu fais toute la théorie, et qu'un jour tu t'as fait 5 ans d'études, un jour tu décides de faire un stage, et t'apprends 3 fois plus sur ton stage d'un mois que pendant tes 5 ans d'études. Et c'est exactement pareil avec l'amour en voyage, quoi. Tu te dis, mais en fait, je vis 15 fois plus les choses parce que on est tous les deux dans une optique de toute façon, vivons les choses maintenant parce que. On ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. Et c'est ça la magie aussi du voyage, ça te donne des expériences auxquelles tu n'aurais même pas pensé. À travers l'amour, mais à travers d'autres choses aussi. Et oui, ça m'est arrivé plein de fois de changer mon itinéraire.
De laisser porter, quoi.
Voilà, pour ça. Pour des expériences, pour des rencontres. Tu penses que tu vas venir un mois, une semaine sur une île, et puis tu finis 3 mois, quoi. Tu t'es dit, ah ouais, d'accord. Mais bon, c'est comme ça, c'est les expériences. Quoi. C'est la vie.
J'adore. Alors, revenons un petit peu sur l'aspect voyage-travail.
Oui.
Aujourd'hui, tu es prof de yoga. Tu as eu un déclic et tu as su que tu voulais faire prof de yoga. Comment est-ce que tu as... Comment
est-ce que tu as su ? Alors, c'est marrant. Je voyageais avec une de mes copines et on allait souvent faire du yoga. Enfin, je me suis beaucoup lancée dans le yoga quand j'ai commencé à voyager. Et on se disait, ouais, t'imagines cette vie de rêve, être prof de yoga. C'est un peu comme si quand tu dis élever des chèvres dans le Larzac. C'était un peu ça, quoi. Ouais. Tout quitter et devenir prof de yoga. Mais bon, je le prenais pas trop au sérieux, tu vois. C'était un peu comme un rêve un peu inaccessible. Ouais. Mais il y a une petite partie de moi qui disait, en fait, j'aimerais vraiment bien, quoi. Mais j'osais pas trop l'écouter. Et un jour, je suis allée à un séminaire pour les digital nomades. Et comment ça se passe, parce que je commençais à entrevoir la question, parce que je me suis dit, je sais quand même bien travailler sur le digital, j'aime le voyage, pourquoi pas être
digital nomade.
Voilà.
Évidemment.
Et donc je suis allée là, et le mec nous a fait faire une méditation à un moment donné, où c'était une longue méditation de, je sais pas, 20 minutes, où vraiment tu imaginais ta vie rêvée, et sans problème de temps, d'argent, de location et tout ça. Et tu devais te réveiller un matin dans ton lit de ta vie rêvée et voir ce qui se passait. Et tu regardais le film un peu comme ça de ta vie rêvée.
C'est trop bien.
Et finalement, j'ai vraiment essayé de faire l'exercice à fond, comme il disait, parce là, je vous le dis rapidement, mais il disait plein de choses et tout ça. Et je me suis réveillée un matin sur une plage, forcément, dans une maison en bambou. Et alors déjà, tu fais, ah, déjà, on n'est pas en France. Ok. Et je me voyais avec un tapis de yoga sous le bras, à marcher comme ça et à donner mes cours. Et en fait, il y a à l'intérieur de moi, il y a un truc. C'est comme quand tu regardes un truc qui te met en joie, quoi. Ça fait des papillons dans mon ventre. Je me suis dit, mais waouh, c'est ça, quoi. Et je me suis dit, et après toutes mes peurs sont arrivées. Je me suis dit, mais t'es sûre, parce que là, c'est vraiment une méditation, enfin, c'est bizarre, enfin, t'es sûre. Et je me suis dit, mais tu sais quoi ? Faisons ça, quoi. Allons-y, testons, quoi. Testons pour voir si c'est vraiment ça. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment me mettre à fond en yoga. Et en fait, j'ai découvert plein de choses et j'ai trouvé ça génial, quoi. J'avais peur de me dire, mais c'est une illusion, quoi. T'as vu ça en méditation, mais d'où ça sort ? Mais je me suis dit, vas-y quand même, quoi. Essaye, parce que ça me parlait vraiment, quoi. Ça me faisait des papillons dans le ventre. Et quand tu sens les papillons dans le ventre, en général, c'est quand même une bonne chose, quoi, tu vois. C'est tout sur la bonne voie. Et c'est là où je me suis vraiment... J'ai transformé mon voyage, la direction de mon voyage, vers le yoga. J'ai décidé de pas attendre, parce que pour être prof, il faut quand même avoir un an de pratique assez, assez régulière et tout ça. Il faut quand même avoir des bases. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, j'ai pas envie d'attendre un an de plus. Là, c'est maintenant, quoi. Je dois y aller maintenant. Donc, j'ai fait un peu la folle. Je me suis donnée à fond. Je faisais du yoga tous les jours, 2 heures par jour. Je suis partie dans une retraite. J'ai créé ma propre petite retraite de yoga à Bali, justement. Donc, je prenais trois cours de yoga par jour. J'ai testé tous les cours, tous les styles de yoga. Mais c'était un entraînement militaire, quoi. Je me réveillais à 6 heures le matin. J'allais au premier cours. Et jusqu'au dernier cours, j'essayais d'en caler le plus possible, quoi. Des fois, j'étais crevée, j'avais mal partout, dans mes tendons, j'avais toutes mes vieilles blessures qui revenaient. Mais j'étais heureuse parce que j'apprenais, je me nourrissais, quoi. Je mangeais yoga, quoi.
Et du coup, c'est là où t'es partie faire une retraite en Inde, c'est ça ?
J'ai fait mon teacher training en Inde, donc j'ai fait ma formation en Inde. Parce que pareil, je me suis dit, bah, écoute, tant qu'à voyager, tant qu'à faire les choses un peu comme ça, tant qu'à faire, va à la source, quoi. Va en Inde. Je suis partie en Inde. Je me suis dit que c'était pour moi le mieux pour faire ma formation. Et surtout, il y avait plein de formations différentes. J'étais un petit peu perdue. Pareil, en France, tu avais des formations qui étaient un peu longues, qui pouvaient durer 2 ans, 3 ans. Et moi, je voulais faire un truc assez intense et j'avais la possibilité de le faire. Et ma marraine, qui était aussi prof de yoga avant, m'a envoyé cette école qu'elle connaissait depuis 10 ans et où elle avait toujours voulu aller. Et j'ai lu leur description et j'ai fait, mais ça, c'est pour moi, quoi. Ça me touchait, moi, quoi. Je savais que c'était ma philosophie et que ça allait coller exactement à l'école. Et j'ai fait cette école et elle était incroyable, quoi.
Et t'as fait ça combien de temps ?
Et j'ai fait un mois intensif encore de formation où de 6h à 21h30,
ah ouais.
on mange yoga, on parle yoga, on fait du yoga.
C'est marrant parce que tu m'as dit au téléphone, je ne savais pas que je n'étais pas moi-même.
Exactement, parce que tu te caches derrière des faux semblants, tu te caches derrière tes peurs aussi, donc tu fais des choses, des choix, tu parles derrière tes peurs. Et le voyage m'a vraiment permis, le yoga m'a vraiment permis d'aller plonger à l'intérieur de moi pour comprendre qui j'étais vraiment et de me lâcher, quoi. Me dire, mais vas-y, sois qui tu es. Et t'as vraiment cette sensation de te dire, de toute façon, qu'est-ce qui va t'arriver, quoi. Tu vois. Et je me limitais, j'osais pas dire qui j'étais, j'osais pas dire que j'aimais des trucs qui étaient pas forcément trendy, tu vois, j'osais pas... Enfin, j'avais cette tendance à vouloir rentrer dans le cadre comme tout le monde, et un jour je me suis dit, mais je suis pas du tout du genre à être dans mon cadre, et j'ai envie de faire les choses différemment, alors osons le dire et osons le faire, quoi.
Et du coup, aujourd'hui, tu donnes des cours.
Et maintenant, voilà, je suis prof. Ça a mis du temps à venir.
Ouais.
J'ai mis un an avant de commencer à donner des cours parce que j'avais peur.
Ah ouais, donc t'avais ton diplôme, t'as quand même attendu un an.
J'avais mon diplôme, mais je me sentais pas légitime en tant que prof de yoga, comme beaucoup de gens. La légitimité, c'est vraiment un problème chez beaucoup de gens. Et c'est en Nouvelle-Zélande où je suis allée travailler dans un restaurant. Et j'ai dit... En fait, je suis aussi prof de yoga. Ah bon ? Mais attends, on adore le yoga ici. On va faire des cours. On avait une prof l'année dernière. Vas-y, mercredi, ton prochain cours. C'est 3 jours plus tard.
Ah, génial.
Et j'ai fait, oui, bien sûr, pas de problème. Et je suis rentrée chez moi. J'étais là, comment je vais faire ? Mais qu'est-ce que je... Ah, mais je suis pas prête. Non, je vais annuler, c'est pas possible. Mais... Non, mais je suis pas prof, en fait. Et en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai plongé, quoi. Je me suis jetée dans la gueule du loup. Et en fait, il s'est avéré que c'était génial, et j'ai pris trop de plaisir, et j'ai adoré, et mes élèves étaient trop contents, et du coup, en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu un an, quoi. Et maintenant que j'ai donné cours, maintenant que je donne cours régulièrement, je sais que c'est un truc qui me plaît énormément, et je sais que je suis à ma place, quoi. Je suis faite pour ça, quoi. Maintenant, j'ai plus doutes, en fait.
Qu'est-ce que t'as été faire en Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce que t'as été chercher?
En fait, à la base, j'étais partie, donc c'était après ma formation en Inde, et je m'étais dit, je vais faire un visa vacances-travail, parce que les 30 ans, mine de rien, approchent. Il y avait cette question financière qui pointait le bout de son nez, en mode, bon, à un moment donné, il va falloir commencer à gagner de l'argent.
Ça faisait 2 ans que tu voyageais sans gagner de l'argent,
ouais.
Et en dépensant vraiment très peu.
Exactement.
Ah oui.
Donc là, je me suis dit, bon, là, tu commences vraiment à taper dans les réserves sérieusement, voire quasiment toutes les réserves. Ouais. Donc, il va falloir travailler. Et pour moi, le visa vacances-travail, c'est une opportunité de dingue. Enfin, on a vraiment cette chance d'avoir ça. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me priver de ce genre d'opportunité. Et dans mon esprit, la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas très loin. Je me suis dit, bon, autant aller le plus loin possible de la France, ça m'attirait, les paysages, tu vois, la nature et tout. Allons en Nouvelle-Zélande, je savais qu'on pouvait faire pas mal d'argent là-bas. Donc j'y suis allée, et en fait, je me suis rendu compte, avec le temps, que ces expériences me donnaient le courage de faire des choses que je n'osais pas faire en France. Parce que t'as cette idée que... Là-bas, personne ne te connaît.
Ouais.
Là-bas, si tu fais une erreur, personne ne se rappellera parce que tu ne vis pas là-bas. En fait, à l'étranger ou n'importe où, tu peux être qui tu es 100% encore une fois, parce que c'est pas très grave, en fait. Il y a cette idée que si tu fais les choses en France, tu te grilles, c'est fini, quoi. T'es grillé, quoi. Tu peux pas revenir. Alors que c'est les peurs hein, qui parlent, parce que t'es grillé, ben, ça veut dire quoi encore, tu vois, j'allais pas faire des trucs de fou. Mais je suis vraiment allée là-bas en me disant, là au moins, je peux tester tout ce que je veux. Et c'est comme si on faisait un brouillon avant de faire un... Tu vois, c'est comme si on faisait un beau dessin. Ouais, exactement. Ouais. Vas-y, j'ai le droit de me tromper.
Ouais.
Et il y avait ce truc où en France, je me sentais pas la possibilité de me tromper. Et c'est pour ça que j'ai commencé à partir en Nouvelle-Zélande. Et encore une fois, parce que là-bas, on te donne la possibilité de croire en tes rêves, de croire en toi. Et je me sentais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légitime pour le coup, là-bas, parce que on met en avant l'humain, on te met en avant toi, qui tu es, et pas ton CV. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ce restaurant, et j'ai dit, mais j'ai jamais donné cours avant, et j'ai juste un diplôme de yoga depuis un an, on m'a dit, non, pas de problème, attends, mais ça va être génial, je suis sûre. Et ils s'arrêtent à ça, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient en toi. Et en France, ça aurait été plutôt genre... Un an. Ah, bon.
T'as jamais donné de cours.
T'as jamais donné de cours. Ouais. Bon, on va faire un essai d'abord, d'accord, parce qu'on n'est pas sûr.
Ouais.
Alors que là, c'est... Vas-y, quoi.
Ouais.
On te donne l'opportunité. Bah, exprime-toi. Exprime qui tu es et après, on verra ce qu'on fait.
Aujourd'hui, t'es à Bali. Moi aussi, d'ailleurs. On est à Bali.
On est à Bali. Bali, pour moi, c'est une source d'inspiration qui est inépuisable. Il y a une communauté grandissante, enfin une grande communauté autour du yoga, de la spiritualité, du mouvement, de la danse, de l'expression de soi, du développement personnel, du bien-être. Et en fait, tout ça, c'est des catégories qui me touchent, qui me passionnent. Et donc, du coup, je sais que je peux aller puiser des informations, que je peux aller puiser des idées. Non, Bali, c'est vraiment un endroit pour moi qui est hyper, hyper inspirant, où j'absorbe toutes les idées possibles là-bas. Des envies qui viennent, j'apprends beaucoup aussi, énormément. Et même pour le yoga, je vais tout le temps à des cours, et ça me donne des idées pour mes propres cours. Et je me dis, mais ça, c'est génial. Et c'est une façon, en fait, d'approfondir tes connaissances dans tous les sujets qui me passionnent, en fait, en même temps. Donc, pour moi, c'est génial. Et puis, les gens sont tellement relax là-bas.
Et souriants,
agréables. Et la vibration de cet endroit, enfin... C'est beau, quoi.
Est-ce que tu arrives à te projeter dans l'avenir, dans le futur? Ou est-ce que tu vis vraiment au jour le jour, sur le moment présent?
J'essaye de vivre le plus au jour le jour, et pour vraiment permettre de rebondir sur chaque occasion, chaque opportunité, pas me bloquer. Néanmoins, j'ai quand même des projets qui commencent à venir, tu vois, à force de voyager et à force de me lancer vraiment dans le yoga. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir une vision un peu sur 5 ans pour savoir où j'ai envie d'aller. Donc notamment cette envie de commencer à construire des retraites à Bali ou en France, à proposer des ateliers pour expliquer un peu ce que j'ai appris. Tu vois, en fait, il y a vraiment cette volonté de vouloir rendre tout ce que j'ai appris en voyage, dans mes expériences, dans le yoga, tout ce qui m'a nourri et qui m'a transformé. J'ai envie de le rendre aux autres en plus, quoi.
Partager.
Donc, exactement, le partager. Et puis, aider les autres à faire ce shift qui m'a vraiment... Enfin, où je me dis, mais heureusement que j'ai fait ce changement radical dans ma vie, parce que là, j'en profite pleinement, alors qu'avant, j'utilisais que 20% de mes capacités de possibilités, quoi. Donc... Ouais, l'idée, c'est vraiment de rendre le plus possible, donc à travers toutes ces possibilités, quoi.
Et donc, tes prochains projets
Donc là, je suis en train de monter ma chaîne YouTube.
Ah, voilà.
Voilà, on y est. J'ai créé un blog avec Laura, justement, l'année dernière, dans lequel on commençait à parler un peu de voyage, de spiritualité, de découvertes qu'on a faites tout au long du voyage. Mais on s'est rendu compte que c'était une plateforme qui ne nous plaisait pas. Et donc là, on l'avait mis un petit peu en pause, le temps de laisser les choses infuser, les idées infuser. Mais voilà, ouvrir ma chaîne YouTube pour vraiment diffuser les informations, aider les gens. J'espère planter des graines, en fait, chez ceux qui ont besoin de changer de vie, mais qui ne savent pas trop par où passer et comment faire. J'aimerais aussi pousser, parce que là, pour l'instant, je fais du coaching intuitif sur à peu près tous les gens que je rencontre. Et je me dis, à un moment donné, ça serait bien de professionnaliser ça, parce que d'en faire mon activité, parce que ça me passionne et je vois que je ne peux pas m'empêcher de le faire, tu vois, de coacher les gens, de les aider, les accompagner dans leur changement et de leur propre compréhension d'eux-mêmes, parce que je suis passée par ce processus-là. Et du coup, à long terme, j'aimerais soit me former, soit vraiment, vraiment commencer à proposer des séances de coaching. Beaucoup à Bali, on voit des gens qui sont là dans un début de processus de « je vais changer ma vie », mais ils ne savent pas trop par où passer. Et nous, avec Laura, quand on les rencontre, ces gens-là, on adore, parce que on les voit au début et on sait qu'ils vont partir sur un chemin d'évolution qui vont les amener dans une autre part. Et on adore les voir arriver avec un point A et repartir, et ils sont sur un point B et ils ont fait une transition de dingue entre temps. Et enfin, tu vois, c'est comme si t'avais ton petit bébé et tu le vois grandir et tu le vois évoluer et tu le vois partir à l'université et t'es là, c'est beau parce que il va partir dans le monde avec ça, quoi. Et enfin, nous, j'adore, quoi.
Dernière question. Donc, c'est quoi pour toi la vraie vie?
J'adore cette question, parce qu'à chaque podcast que j'ai écouté, tes invités avaient toujours des réponses très intéressantes, et je me dis, différentes. Et d'ailleurs, je réponds à la question à chaque fois que j'écoute un podcast que tu fais, et j'ai chaque fois une réponse différente. C'est bon, à fond, la façon dont tu poses la réponse de l'autre. Et pour moi, la vraie vie, c'est celle où t'es vraiment connecté à toi-même, connecté à qui tu es vraiment, sans te cacher derrière ce que te dit la société, ce que te disent les autres, ça derrière tes peurs. La vraie vie, c'est la vie qui sort de tes entrailles, tu vois, qui sort de toi, de ton cœur, celle qui est connectée à ton cœur. Et d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas qu'une vraie vie, puisqu'on a une vie, mais on peut la jouer avec dans plein de façons différentes. Et ce n'est pas parce qu'on a choisi une voie un jour qu'on ne peut pas changer et en avoir d'autres. C'est ça que j'aime bien dans ton titre, c'est « Deux vraies vies », parce que t'as une vraie vie dans ce moment-là, mais ça peut être, tu peux prendre un autre chemin un jour et ça sera aussi une vraie vie. À partir du moment où, c'est pas grave si tu changes, à partir du moment où t'es en phase avec toi-même et tu sais que t'es aligné avec ce que tu veux vraiment, pour moi c'est ça la vraie vie, quoi. Si t'es aligné, si ça vient du cœur, t'es sur la bonne voie, quoi.
Voilà. Merci beaucoup, Laura.
Merci à toi d'avoir pris le temps de venir à Bali.
Oui, exprès, attends.
Oh, merci. Hein.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Deux Vraies Vies. J'espère qu'il vous aura grandement inspiré et aidé dans votre propre processus. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi un commentaire sur iTunes et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @devraiesvies. Mais aussi Twitter ou Facebook. À très vite !